le temps buissonnier. Le temps buissonnier partage aujourd'hui avec un scientifique et un musicien pour aller voir là-haut si c'est mieux. André Braque, exobiologiste en duplex dans nos studios de France Bleu Orléans pour un petit livre « Découvrir la vie extraterrestre » paru aux éditions Le Pommier dans la collection Les Mini-Pommes, mini mais avec beaucoup de choses dedans. Et le musicien promis, Maxime Pascal, qui est directeur musical pour un spectacle « Le voyage de Michel autour de la Terre ». Enfin, un spectacle, c'est plutôt un concert-spectacle, on va voir, parce qu'avec la musique de Stockhausen, évidemment, les instruments prennent le devant de la scène, un petit peu comme à l'opéra, les solistes. Et puis nous avons aussi Gérard Desportes, qui est secrétaire général de l'Opéra Comique, et qui s'occupe, en tout cas qui a un grand souci, de la médiation vis-à-vis du jeune public. Carmela et son grillon Negrito nous ont envoyé un nouveau message depuis leur tour de France pour ce qu'ils ont appelé l'autre campagne en référence aux révolutionnaires zapatistes du Chiapas. Ces deux-là me font faire le tour du monde de l'espoir. Je vous livre ce message accompagné d'un CD. Carmela et moi, oui, c'est Negrito le grillon qui écrit cette fois. Carmela et moi, nous voudrions que vous écoutiez ce tango écrit en 1934 et qui se projette dans les années 2000. Quel choix après avoir écouté ce tango? Révolutionner la Terre ou la quitter? Nous, nous avons choisi depuis longtemps, mais le chemin est plus long que notre désir. Hasta la victoria siempre. Signé Negrito Carmela.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dublés. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, hey, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un ladrón, cualquiera es un señor. Mezclado con esta bisque va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, va, 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 va. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ve llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. ¡Ey, no pienses más! Sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que mata o está fuera de la ley. ¡Va, va! Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados.
Merci à Negrito et Carmela de nous avoir offert ce Susanna Rinaldi, une grande tragédienne qui s'est mise au tango et qui, avec beaucoup d'humour et de dérision et d'ironie, a fait de cette magnifique chose qu'est le tango, mais tellement machiste, des chansons presque féministes, et notamment ce Cambalache qui, lui, ne parle pas d'amour. Je vous lis juste deux ou trois vers de ce tango traduit, mais vous pourrez trouver sur notre site la traduction en français. Que le monde ait été et sera une saloperie, ça je le sais bien, comme en 506 et en l'an 2000 aussi. Plus loin, aujourd'hui, cela revient au même d'être loyal ou traître, ignorant, savant ou voleur, généreux ou fripouille, tout est pareil, rien ne l'emporte, c'est la même chose un âne ou un grand professeur. Il y a plus de recalés ni de promotion, les gens immoraux sont à notre niveau. Quel manque de respect, quel accroc à la raison, n'importe qui est un monsieur, n'importe qui est un voleur, etc. Vous retrouverez donc cette traduction. Alors, merci donc à nos deux petits héros, Carmela et Negrito, de nous avoir offert finalement ce tango qui nous donne envie de quitter la planète. André Braque, parfois, je me demande si cette rumeur persistante qu'il y aurait des ovnis et une autre vie possible ailleurs ne vient pas du dégoût, de l'inquiétude que provoque l'humanité terrienne.
Pas forcément, je pense que c'est surtout motivé par cette curiosité qui anime l'esprit humain et qui cherche toujours à comprendre, à découvrir.
Alors vous êtes exobiologiste, l'exobiologie, il n'y a pas longtemps qu'elle est rentrée au CNRS, rappelez-nous, c'est vous d'ailleurs qui avez créé ce laboratoire.
En fait, la discipline a démarré avec l'expérience historique de Stanley Miller qui, en 1953, a réussi à fabriquer des acides aminés à partir d'un mélange de gaz. Donc, à partir de là, on a caressé l'espoir de pouvoir recréer de la vie simple et comprendre un peu comment la vie est apparue sur Terre. Et du coup, avec les missions spatiales qui se sont développées peu après, on a eu accès à d'autres planètes. Et donc, on s'est demandé si ces autres planètes ne pouvaient pas avoir abrité de la vie. En prenant la Terre comme référence, en considérant que ce qui s'est passé sur Terre, si les conditions sont remplies ailleurs, le même phénomène peut se produire.
Dans ce petit livre, Découvrir la vie extraterrestre, aux éditions Le Pommier, dans cette merveilleuse collection Les Mini-Pommes, André Braque, vous avez joué le jeu du conférencier, c'est assez amusant, c'est-à-dire que deux enfants, Nicolas et sa sœur Julie, se disputent sans cesse, car Nicolas, lui, rêve des extraterrestres, est sûr qu'il y en a, est sûr qu'ils vont venir sur Terre et croient voir des signes partout. Et sa petite sœur, Julie, elle, beaucoup plus rationnelle, se moque de lui. Et la mère, pour les départager, dit « Écoutez, il y a André Carbe qui fait une conférence, nous allons y aller. » Et cette conférence, sommes-nous seuls dans l'univers, est donc ouverte aux enfants et aux adultes, et il y a des questions. C'est donc très pédagogique comme manière de poser les questions. Alors, on ne va pas revenir sur peut-être les premières questions, que faut-il pour qu'il y ait la vie, bien sûr, l'eau, le carbone, la photosynthèse, tout ça est très bien expliqué, sans jamais lasser. Il y a bien sûr tout un travail pédagogique sur le vocabulaire, avec un lexique à la fin. Et puis, on arrive à ces planètes sur lesquelles on met des sondes, que l'on étudie, et notamment la planète Europe glacée. Je trouvais ça assez amusant. Alors la question qui n'a pas été posée par les enfants dans cette conférence découvrir la vie extraterrestre dans ce petit livre, c'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'il ne pourrait pas ne pas y en avoir. S'il y a tout ce qu'il faut sous la glace, par exemple.
Absolument, c'est notre hypothèse de travail, partant du principe que la chimie est reproductible. C'est comme une recette de cuisine. Si vous répétez la recette avec précision et minutie, vous êtes pratiquement sûr de réussir la recette. à condition que la recette soit relativement simple. Donc, notre idée de départ, c'est que chaque fois que l'on rencontre sur un astre autre que la Terre de l'eau et de la chimie du carbone, la vie avait quelque chance de démarrer.
Ou aura quelque chance de démarrer. Qui sait ?
Aura quelque chose de démarrer.
Alors du coup, quand on vous suit avec ces enfants qui vont venir vous voir dans votre laboratoire du CNRS, André Carbe, on rencontre Vincent qui est chimiste dans votre laboratoire. De quoi créer des vocations, non ? Vous, votre vocation, elle est arrivée à quel âge ?
Oh, j'avais 15 ans quand le professeur de chimie est entré dans la salle de cours en disant « Aujourd'hui est un jour historique puisque un jeune Américain a réussi à faire des briques du vivant » en partant d'un mélange de gaz. Donc, 15 ans, je me suis dit, si on arrive à faire des briques, on doit pouvoir faire des murs et peut-être une maison et peut-être un lotissement, donc recréer la vie en tube à essai. Et cette idée m'a poursuivi tout au long de mes études de chimie.
C'est pour ça.
Et donc,
c'est pour oui. ça qu'aujourd'hui, vous aimez la vulgarisation, au point de créer le Centre de Culture Scientifique à Orléans, je crois.
Absolument. Et en bon disciple de Sénèque qui écrivait « Les plus belles découvertes cesseraient de me plaire si je devais les garder pour moi ». Donc en fait, c'est un plaisir égoïste. J'ai eu la chance de comprendre et d'apprendre beaucoup de choses et donc je me dois avec grand plaisir de les restituer.
Alors vous le faites parfaitement dans ce livre illustré par Aurélien Desbats et c'est très drôle parce que ce ne sont pas des illustrations habituelles dans la littérature jeunesse ou en tout cas dans le documentaire. Il s'agit presque de dessins de presse justement, très humoristiques, en décalé, qui ironisent même sur les choses très sérieuses. J'imagine oui. que ça vous a plu et amusé.
Absolument. Et l'ironie de l'histoire, c'est que le portrait du conférencier me ressemble, bien que Aurélien ne me connaisse absolument pas. Mais je
et
pense
moi, j'ai pas le plaisir de vous voir et de comparer, puisque vous êtes dans nos studios oui. de France Bleu Orléans. Mais il vous ressemble, alors.
Absolument.
Et il ne vous connaissait pas, il vous a dessiné par hasard.
Oui, mais je pense qu'en lisant le texte, il s'est fait une image de l'auteur et que voilà.
Bah, en revanche, les enfants de la sixième, dans un collège à Annecy, vous connaissent bien parce que vous, en tant que directeur de laboratoire, etc., chercheur, vous êtes allé passer 2 jours avec eux.
Hein, absolument.
Dans une classe de sixième, pour répondre à cette question, comment rendre une planète habitable ? Écoutez, chapeau quand même, hein, c'est pas souvent que l'on voit les scientifiques de très haut niveau prendre autant de temps avec des enfants aussi jeunes pour inventer l'avenir.
C'est extrêmement réconfortant parce que parmi ces enfants, certains sont extrêmement motivés. Et il y a un élève qui m'a posé la question, il m'a demandé ce que je pensais des trous de ver. C'est une hypothèse qui relierait des trous noirs appartenant à 2 galaxies voisines. Donc vous voyez que même à 10-12 ans, même à 11 ans, ces élèves sont extrêmement motivés et c'est plutôt bon signe pour l'avenir.
Oui, et même en philo, je peux vous dire, pour en rencontrer, ils sont étonnants dès lors qu'on leur fait confiance. Merci beaucoup de nous avoir répondu, André Braque, depuis Orléans. Vous pouvez rester avec nous, bien sûr. On peut vous retrouver, donc, découvrir la vie extraterrestre, les mini-pommes aux éditions Le Pommier. Il y a plein dans cette édition et dans cette collection, les mini-pommes, plein de choses autour, justement, des étoiles et du soleil, notamment le dernier, Le Soleil, notre étoile. Étoile de Roland Lehoucq, qui est illustré ici par Magali Bognol. Merci à tous ces scientifiques qui offrent aux enfants le monde, finalement, et l'avenir. Alors vous aussi, d'une certaine manière, Maxime Pascal, en tant que directeur musical cette fois, vous avez créé d'abord un orchestre en 2008, vous êtes très jeune pourtant, qui s'appelle Le Balcon. Et c'est curieux d'avoir, j'imagine, en référence à Jean Genet qui pense du monde dans cette pièce-là, ce qu'à peu près l'auteur du tango que nous avons écouté, Cambalache, le pense, c'est-à-dire que le monde est un bordel, quoi. Enfin, c'est ça que ça veut dire.
Exactement, c'est ça. C'est vrai que c'est très proche, là, ce que vous avez raconté tout à l'heure de l'univers de Jean Genet dans Ce Balcon, qui parle beaucoup de cette notion-là de bordel, mais aussi de la notion de représentation, d'image. Vous avez dit, chacun est le voleur, chacun est le. Je ne sais plus ce que vous avez utilisé comme expression, mais chacun est en haut, chacun est en bas. Cette idée que chacun joue un rôle dans la société et que ces rôles-là sont interchangeables, qu'on peut jouer à l'un ou à l'autre, on peut se battre pour l'un ou pour l'autre. Jean Genet, c'est vrai que ça traite de ça et c'est un auteur qui a été très important pour moi. Et c'est pour ça qu'on a choisi, avec tous les gens avec qui j'ai créé Le Balcon, de s'associer à ce
c'est
auteur.
C'est étonnant, parce qu'on aurait imaginé une compagnie de théâtre, Le Balcon, un orchestre. Voilà, il faut aller le chercher un peu plus loin.
Oui, en même temps, notre compagnie est à la fois un orchestre donc, et une compagnie qui fait aussi donc, de l'opéra. Donc il y a des chanteurs, des acteurs, des metteurs en scène, des costumiers. Le lien avec le théâtre, il est quand même très présent dans tout ce qu'on fait.
Alors il est encore plus présent, j'allais dire, là, avec Stockhausen, avec cette pièce, Le Voyage de Michel autour de la Terre. Là aussi, on est avec André Braque, puisqu'il s'agit d'un héros qui parcourt toutes les planètes. Non, qui vient d'une autre planète et qui parcourt toute la Terre et toutes ses régions et qui va tomber amoureux. Donc c'est à la fois une histoire d'amour, une histoire assez ironique aussi, non ? À la fois, bon, on rêve, mais en même temps, il semble y avoir une critique aussi de...
Bah oui. En fait, ce voyage de Michel, qui est une scène d'opéra de Stockhausen, c'est très très particulier parce que dans les opéras, vous savez, en général, on a l'habitude de voir les chanteurs qui incarnent les rôles. Et chez Stockhausen, ce sont pas les chanteurs, ce sont les instrumentistes. Et Michel est un personnage de trompettiste. C'est un trompettiste qui est une espèce de demi-dieu à apparence humaine qui vit sur une autre planète comme ça et qui descend sur Terre pour rencontrer d'autres créatures instrumentistes. Il rencontre une créature tubiste, une créature contrebassiste, vous voyez. Des musiciens qui vont converser, il va y avoir des bagarres, il va se battre avec certains, se lier d'amitié avec d'autres. Et effectivement, il tombe amoureux donc, de ce personnage qui s'appelle Mondeva, qui est un personnage féminin de femme oiseau qui vient comme lui des étoiles.
Et qui joue
du corps de basset, qui est une espèce de grande clarinette, de longue clarinette comme ça, un peu plus grave. Et ils vont tomber amoureux et il va y avoir une espèce d'initiation de sa part, puisqu'elle va lui apprendre un peu la musique, elle va lui apprendre un langage, une langue, puisque les instrumentistes ne conversent pas avec un texte comme nous. Quand on, voilà, là, on parle, on échange des mots, eux, ils parlent avec des sons, des bruits, des mélodies. Et elle va lui apprendre tout un tas de mélodies, de sons comme ça que lui va pouvoir reproduire. Ils vont apprendre à se connaître et à...
Et ce qui est extraordinaire, je suis allée voir, parce que je n'ai pas eu l'occasion encore de voir le spectacle, mais je suis allée voir sur le site de l'Opéra Comique, la bande-annonce, et là, c'est évident que ces musiciens-là jouent avec leur corps. C'est-à-dire que non seulement il y a la partition de Stockhausen qui dit des choses à travers l'instrument et à travers la musique, mais il y a aussi le corps des instrumentistes qui, là, n'est jamais aussi utilisé, si j'ose dire, mis en jeu, mis en scène, dans un orchestre normal, puisqu'ils sont debout, ils peuvent se poursuivre, ils sont pas assis sur leur chaise derrière leur pupitre.
Stockhausen, il a imaginé un monde qui est vraiment à mi-chemin entre l'opéra, le cirque, le théâtre, la danse. C'est un peu un mélange des genres. Il y a une espèce de... L'histoire est plus proche d'un synopsis de cinéma ou d'un argument de ballet que d'un livret d'opéra. Et donc, tout est écrit dans la partition, les mouvements des instrumentistes, comment ils doivent se déplacer, comment ils doivent bouger. Et c'est vraiment un genre très, très nouveau dans lequel donc tous les personnages, comme ça, sont mis en mouvement, sont mis en scène alors qu'ils sont instrumentistes.
Alors, on va en écouter un extrait avant qu'on reparle un petit peu de cette technique très particulière, j'imagine, pour les musiciens. On vient d'écouter cet extrait, vous l'avez choisi, pourquoi ?
Alors là, on vient juste d'entendre le passage où donc vous entendez Michael, enfin ou Michel, ça dépend comment on l'appelle, est dans une espèce de vaisseau spatial. Il est à la recherche de Mondeva, ce personnage dont il est tombé amoureux, et il la cherche, il la trouve pas, il sait pas où elle est, et elle se met à jouer. Et c'est pour ça qu'il arrête, on entend le piou, il arrête comme ça tout son orchestre, toute sa bande, et on l'entend hurler stop, parce qu'il a entendu l'appel de Mondeva, et donc il va descendre à ce moment-là de son vaisseau spatial pour la chercher et la trouver. Et c'est ce qu'on vient d'entendre, en fait.
Alors, vraiment, je m'adresse aux auditeurs. Allez voir sur le site de l'Opéra Comique la bande-annonce, parce que vous comprendrez comment la musique s'incarne aussi à travers les gestes. Alors, deux questions. Un, est-ce que les musiciens sont vraiment préparés, quand ce sont des instrumentistes de très haut niveau même, à vivre la musique avec leur corps et à jouer du Stockhausen, qui est plus que jouer, là. Qui est...
Alors, c'est intéressant comme question, parce qu'effectivement, les instrumentistes au conservatoire reçoivent une formation technique très, très, de très, très haut niveau. En revanche, ils ne sont pas formés pour, comme des acteurs ou comme des chanteurs pour jouer la comédie comme ça. En revanche, ça se fait assez naturellement parce que ça renoue un peu avec les origines de la musique où le corps, la voix, l'instrument étaient mêlés. Les premiers opéras mêlaient la voix, le chant, la danse, l'instrument avec l'orchestre. Tout ça s'était mêlé, tout ça, ça faisait qu'un. Ça s'est séparé à partir notamment vraiment au 19e siècle. On a vraiment dissocié le chant de la danse de l'orchestre.
Et on a mis l'orchestre dans la fosse.
Exactement. Et l'orchestre, voilà.
Quelle horreur.
C'est ça. Et en fait, là, on renoue un peu avec les origines. Et comme donc c'est dans l'ADN des instrumentistes, on fait le lien un peu avec la biologie peut-être, comme c'est dans l'ADN des instrumentistes, de tous les musiciens, d'être à la fois chanteur, instrumentiste et danseur, bah finalement ça se fait assez vite.
Retrouvé.
Ça se fait
et assez alors vous, du coup, le chef d'orchestre, là, vous expliquez aux enfants tout ça, mais il n'y a pas grand-chose à expliquer finalement, parce que c'est une musique visible, compréhensible, à l'œil nu, si j'ose dire. Mais alors, vous faites beaucoup de gestes, ça me fait penser au sound painting, par exemple.
Je bouge beaucoup, parce que, en fait, donc je donne pas mal d'informations
je dirige. Sur la musique et sur le corps, j'imagine.
Voilà, exactement. Bah, je donne des informations sur à quelle vitesse on doit jouer, dans quel caractère, avec quelle intention. Donc je bouge un peu. Donc ça, et le sound painting auquel vous faites référence, c'est un genre dans lequel on improvise. Et les chefs d'orchestre font improviser.
C'est ça. Ils bougent beaucoup aussi.
Voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que la musique originellement est très liée à l'improvisation. La tradition d'écrire la musique, c'est tout récent. Pendant très longtemps, on l'improvisait. Et donc, ça, on renoue un peu avec ça. Et c'est vrai que cette musique-là de Stockhausen renoue beaucoup avec la notion d'improvisation aussi.
Alors, je crois que pour que les enfants et les adultes soient dans la jubilation la plus totale, il faut y aller le lundi 24 avril, le mercredi 26 avril, le vendredi 28 avril, puis du mardi 4 au vendredi 6 en octobre. Donc, il n'y a pas beaucoup de représentations. J'espère qu'il y aura une tournée pour vous. Mais en tout cas, à l'Opéra Comique, c'est à ces dates-là qu'on pourra le trouver. Alors, Gérard Desportes, vous qui êtes secrétaire général de cette maison, l'Opéra Comique, et vous souciez beaucoup du jeune public. Là, vous avez une œuvre magistrale pour pouvoir vous adresser au jeune public.
C'est ça. C'est-à-dire que il faut distinguer en fait ce qui est de l'ordre de la création. Donc l'opéra comique systématiquement crée des opéras pour le jeune public. Donc cette année c'était Princesse Légère. L'année dernière on était fermé. Alors on avait fait un opéra sur le web qui s'appelait Le Mystère de l'écureuil bleu qu'on a pu voir que sur le web et qu'on va donner en 2018 à Favart
sur scène.
Et là c'est un opéra. Il y a un orchestre d'opéra, des chanteurs, enfin tout. Mais sauf que c'est pour les enfants, c'est-à-dire que ça dure pas 3 heures, ça dure un peu moins, ça dure
une heure.
Vous
n'êtes pas d'accord avec ça, je crois.
C'est-à-dire que c'est très difficile quand on veut faire découvrir l'opéra aux enfants. C'est une tâche très très compliquée parce que d'abord un opéra ça dure très longtemps, hein. En gros, ça dure 3 heures. Donc, pour un enfant, alors faut s'entendre sur le terme d'enfant. Mais si on est sur un 8-10 ans, c'est très compliqué de tenir un enfant de 8-10 ans pendant 3 heures.
Même pour des adultes, je peux vous dire, j'en connais qui résistent. Hein.
Exactement, vous avez raison. Encore que, par exemple, on vient de faire Fantasio et on a pu constater que, notamment pour les séances du dimanche, que y avait des familles et que les enfants réussissaient à tenir. Ah. Mais c'est pas toujours le cas. Non, il faut dire la vérité, c'est pas toujours le cas. Et puis, par ailleurs, il y a un autre problème qui est le prix de place. Parce que si vous mettez 56 musiciens dans la fosse, avec plein de solistes, etc., ça coûte très très cher. Ouais. Et donc c'est vrai que initier les enfants, donc là c'est le cas de Maxime, mais il y a d'autres initiations qui se font tout au long de l'année, mais donner un opéra pour enfants, c'est complexe.
Alors vous avez des opérations type la mélodie des choses, en deux mots, c'est quoi pour justement essayer
Donc la mélodie des choses, c'est dans droite ligne de ce que Maxime vient d'expliquer. Alors là c'est un chef d'orchestre pianiste qui s'appelle Frank Kravzik. Ça se fait avec des classes, donc il sélectionne 3 classes. Il leur demande de sélectionner, les classes sélectionnent un objet, donc vous avez des objets qui sont sélectionnés, et sur la base des objets, il réunit les enfants, et ils se mettent à inventer des partitions, une partition qui fait que, au fil de l'année, donc il y a plusieurs rendez-vous qui sont donnés, et ça va fabriquer un spectacle. Donc
Et donc là,
plein d'enfants sont associés, plein de classes. On n'associera pas que les enfants, les familles pourront venir aussi. Sur le même principe, des objets sont sélectionnés, on vote, bon, c'est interactif, on fait ça par Internet. Et Et puis donc, à la suite de ça, ils inventent eux ensemble une partition. Alors soit qu'ils vont la chercher chez Mozart, Puccini, que sais-je encore, ou alors ils l'inventent. Et à ce moment-là, de fil en aiguille, avec les objets et avec les partitions, ils fabriquent une histoire. Et voilà, c'est assez amusant. Oui. Ça fait partie de ces choses qui permettent l'éveil.
En une phrase, Maxime Pascal, qu'est-ce qui a, chez vous, déclenché l'amour de la musique ?
Alors, moi, la musique, j'en ai fait depuis tout petit, puisque j'ai des parents musiciens. Alors, j'en ai entendu même avant de naître. Donc, j'en ai fait très tôt. Mais alors, l'amour de la musique, il a toujours été là, mais un peu comme l'amour de l'art en général, hein, et je me suis toujours intéressé à plein de choses, voilà. Et d'ailleurs, je me souviens assez précisément de l'ensemble des expériences que j'ai eues enfant, et notamment, j'étais passionné par les extraterrestres, on en a parlé tout à l'heure, passionné par tout ça, et donc je me nourrissais de plein de petites choses que me faisaient découvrir mes parents et mes amis, et voilà, la curiosité, je pense que voilà, c'est toujours super de la nourrir chez les enfants. Et ça a été mon cas. J'ai
mais tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents musiciens. Ça rappelle le titre d'un film. Mais donc il faut compenser. Et donc tout ce que vous faites, beaucoup en direction du jeune public, ou c'était la première fois avec le balcon ?
Ah non, on en fait pas mal. C'est pas structurel, hein, mais juste en gros, on aime bien jouer pour les enfants, jouer avec les enfants. Comme je disais, moi je me souviens de toutes les expériences que j'ai eues comme ça quand j'étais enfant. On essaye de faire ça. Voilà, on aime bien ça. On aime bien jouer pour les enfants.
Bon, écoutez, je sais qu'ils sont bien reçus aussi à l'Opéra Comique, puisqu'il y a même Raconte-moi à l'Opéra Comique, mais tout cela en deux
tout
mots.
Tout est sur le site. Tout est sur le site. Hein, on renvoie tout le monde sur le site et puis on leur dit qu'à partir du 26 avril, l'Opéra Comique est ouvert et elle est ouverte notamment aux enfants. On n'a pas parlé de la maîtrise. On a une maîtrise aussi à l'Opéra Comique.
C'est très important, oui. Dites-en deux mots.
La maîtrise d'Opéra Comique, ça permet aux jeunes qui n'ont pas eu justement l'éducation que certains ont eu la chance d'avoir, ça leur permet, à condition qu'ils aient envie de chanter, ça leur permet donc de rentrer dans une filière quasi professionnelle. En tout cas, c'est notre espoir. Avec un concours d'entrée, mais on sélectionne que des enfants qui n'ont pas pu aller au conservatoire et qui n'ont pas.
Ou à la maîtrise de Radio France.
Voilà, où là, il faut savoir lire la partition selon des critères bien spécifiques, tandis que là, nous, non. Et comme ça, on amène des classes d'âge et on
ils
espère.
Ils sont combien ?
Et donc là, pour l'instant, ils sont 104.
Ah, quand même.
Et on espère en avoir beaucoup plus. Et parfois, on les retrouve sur la scène de l'Opéra Comique et on est très, très contents. Tous ne seront pas, évidemment, professionnels, mais on est très très contents d'être nous aussi au milieu de ces enfants, parce qu'on est une vieille maison de 300 ans, et donc ça nous met un peu de sang neuf.
Oui, et merci d'être venu la présenter, cette vieille maison ici, avec des jeunes comme Maxime Pascal, c'est bien parti quand même. Merci à tous, vous pouvez évidemment retrouver toutes les références de cette émission sur notre site, sur franceculture.fr. Merci à André Braque, à vous Maxime Pascal, et à vous Gérard Desportes. Le temps buissonnier, c'est toute une équipe, d'abord l'équipe aussi de France Bleu Orléans pour le duplex aujourd'hui, à la cabine technique à Paris dans nos studios Cédric Châtelus, et pour préparer cette émission Annie Comier, à la réalisation Franck Lilin, et Aline Payet essayait avec sa petite voix un petit peu cassée. Non, je devrais me mettre à chanter le blues, vous croyez pas, avec une voix comme ça ?
Carmen, vous pouvez essayer.
Je viens. Oh, attendez, ne partez pas, on en discute, j'adore Carmen. Après Carmela, Carmen. Ah, ça y est, je vois qu'est-ce que je peux faire dans l'avenir. Pour l'instant, je vous laisse parce que c'est l'heure du premier journal sur France Culture. À dimanche prochain.